Chapitre 41. Si un jour je devais mourir, ce sera loin. Loin de la montagne. Dans un endroit beau, calme. Où j'entendrai les oiseaux chanter. Note personnelle de Jonathan Touvier, mars 2007. Je suis resté dans la tente, je crois jusqu'à ce que sa poitrine refroidisse contre la mienne. J'ignore combien de temps ce petit corps frêle est resté chaud, mais peu à peu tout ce qui rappelait la vie l'a quitté pour partir quelque part dans cet ignoble gouffre. Je ne crois pas en Dieu ni en qui que ce soit après la mort, mais lui y croyait. C'est là l'essentiel. J'espère de tout cœur qu'il pourra sortir d'ici à présent et monter vers son ciel qu'il chérissait tant. En silence, j'ai tiré la fermeture du duvet, l'ai ouvert et déposé au-dessus de lui. Ses frisettes noires dépassaient encore, alors je me suis baissé et réarrangé son linceul jusqu'à le couvrir convenablement. Puis j'ai murmuré quelque chose, comme l'aurait fait un père pour son fils. Je lui ai souhaité bonne chance et accordé mon pardon. C'est sans doute ça une prière. Je sors et me traîne vers Michel en lutte contre la glace. Farid est mort. Il se tourne vers moi, haletant.
T'as vu tout ce que j'ai dégagé? C'est du sacré bon boulot, non?
Du pied, il chasse des monticules pulvérisés vers l'arrière.
Si tu m'aides, on pourra s'en sortir en 5 ou 6 heures.
Il me dégoûte jusqu'au plus profond de mon être. Tu dois me donner le réchaud, je veux faire fondre de la glace pour laver son corps. Et après, je dirai une autre prière, quelque chose de plus... solennel.
Une prière? Tu te fous de ma gueule? Le réchaud reste à sa place.
Tu as tué ce gamin. Si jamais on sort d'ici, je m'arrangerai pour que tu finisses tes jours en prison.
Une prison, ce serait le luxe.
Il me jauge le regard en coin.
Et tu crois que les flics vont se fier à la seule parole d'un fou?
Incapable de me contrôler, je me jette sur lui et serre son cou des deux mains. Je veux que sa tête saute comme un bouchon de champagne, qu'il meure et qu'il sache qui le tue.
Tu n'as donc aucune compassion?
Envers, endroit, nos corps roulent par terre. Son masque de fer arrive en plein sur mon nez. Un craquement résonne jusqu'à mes oreilles. Du sang coule sur mes lèvres. Le choc de nos carcasses en mouvement propulse violemment la bouteille d'acétylène vers l'arrière. La flamme du réfecteur s'éteint. Noir. Notre combat cesse immédiatement. Le signal du danger résonne. Le gaz chointe, une fuite. Dans l'obscurité la plus complète, le corps de Michel se détache du mien. Je l'entends ramper dans la glace. Je tremble et me redresse sonné. Un brouillard glacial recouvre mon visage. Je tâtonne sur ma gauche en état de panique.
Vite! Le gaz s'échappe! J'ai la bouteille.
Je m'approche à l'aveuglette, palpe le bras de Michel, puis la bouteille qui nous permet de vivre depuis notre réveil ici. Le sifflement d'acétylène s'intensifie. Une odeur âcre se répand. Ma main effleure le bec. Je ferme le robinet en urgence, mais le gaz continue à se volatiliser. Je ne comprends pas. Une pièce doit être fissurée, peut-être cet écrou que j'avais déjà resserré. Ou l'une des petites pièces au niveau de la sortie. Michel hurle à mes oreilles.
« Tout le gaz s'échappe! Fais quelque chose, bon sang !»
Je n'y vois rien, mon nez pisse le sang sur mes doigts, je respire avec la bouche. Chaque seconde perdue, ce sont des minutes, des heures de vie en fuite. Le temps s'accélère. Nous nous bousculons autour de cette bouteille, essayant chacun de trouver une solution. Je pense que Michel ôte son blouson et essaie de colmater, mais le gaz traverse tout. Le tissu, la moindre interstice. On peut rien faire, rien.
« J'ai le briquet !»
allait Michel.
« On pourrait allumer pour réparer. »«
Non! Sinon ça va nous carboniser !» Il se tait. Je m'escrime encore sur les vis, le tuyau, rien à faire.
Cherche autour, il y a peut-être une autre pièce. Une vis, un robinet, un écrou.
Dans l'obscurité, je bascule sur les côtés dans la neige au sol, remue la glace avec mes mains gelées. Le chointement baisse déjà en intensité. Nos gorges sifflent fort et n'a jamais fait si noir et si froid dans cette grotte. Alors l'ultime filet de gaz s'éteint dans un baiser fatigué. Le silence retombe. Longtemps.
Cette bagarre stupide, elle nous a coûté cher cette fois. J'aurais peut-être dû allumer ce briquet. Nous faire cramer tous les deux. Tout serait fini. Qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Je ne vois plus rien, ni mes mains, ni mes pieds. Nous flottons dans le néant. Il y a encore le réchaud dans la tente. Un peu de lumière, combien Michel? Combien il reste de gaz dans la dernière recharge selon toi?
La moitié.
La moitié. Je me redresse.
4 heures.
C'est beaucoup 4 heures. Et si on économise, on pourra durer encore plus longtemps. À l'aveuglette, je le tire par la manche.
Allez, va la chercher.
Michel se relève, je l'entends marcher. Plus loin, il tourne plusieurs fois à la pierre du briquet de Farid, avant de parvenir à faire jaillir le feu. La petite flamme dansante devient notre bien le plus cher. 30 centimes de plastique et de gaz contre 2 vies. Je me prends la tête dans les mains. 4 heures, Seigneur. Mes 4 dernières heures d'existence. Qu'est-ce que ça représente, 4 heures? Le temps que Françoise a mis pour faire venir Claire au monde. 4 heures. C'est l'échafaud. Je croyais qu'on vivrait encore 3, 4, 5 jours. Une semaine peut-être. Mais là, 4 heures. Oui, Michel, continue, reviens avec le gaz. L'étincelle de chaleur s'éloigne. Obscurité l'engloutit presque aussitôt. Je m'assieds, me replie en position de fœtus, les mains sur les épaules. Je prenais toujours cette posture quand j'entendais les pas de mon père dans les escaliers. Et j'attends. J'attends le retour de Michel. Je m'accroche à sa présence, comme le naufragé à son radeau. En dépit de ses actes barbares et impardonnables, je ne veux pas qu'il m'abandonne. Je refuse de mourir. Pas comme ça. Pas seul au fond d'un gouffre, dans le noir. Tout est si inexistant et sinistre autour. Michel revient enfin, avec le réchaud allumé au plus faible débit.
« Je peux approcher ?»
il demande. Le gaz acétylène a dû se dissiper.
« Vas-y !»
Il s'avance prudemment et pose le réchaud à côté de la bouteille avec ses lanières. Une corolle vive éclaire alentour. Je me penche et ramasse un boulon fendu, ainsi qu'un joint torique juste à côté, dans la glace. Michel s'accroupit devant moi. Il glisse le briquet dans le pli de son pantalon.
4 heures environ, tu as dit?
4 heures? Je ne sais même plus ce que ça représente. Il s'évade quelques secondes avant de revenir.
Écoute, Jonathan, écoute bien. C'est la pire décision de ma vie. On va laisser brûler le gaz jusqu'à ce que le niveau diminue encore de moitié. Et quand ce sera le cas, alors?
Il s'est assis à mes côtés à quelques centimètres. Son haleine ne sent plus rien, juste le vide, l'absence de vie.
Je tenterai ma chance de mon côté, en embarquant le réchaud. J'essaierai de franchir les éboulements, de...
Il porte ses doigts à son crâne.
Enfin, tu comprends, ce gaz, ça sert à rien de le laisser se consumer jusqu'au bout et qu'on crève tous les deux sur nos tapis. Il faut tout tenter, même si je dois exploser.
Je ne puis l'empêcher de vouloir continuer à vivre. Alors j'acquiesce, essayant de rester fier et fort. C'est bien ce que je redoutais. Je vais crever seul dans le noir. Michel commence à s'éloigner. Je l'attrape par l'arrière du pantalon.
Si ça doit arriver, je désigne sa pierre tranchante. Tu me la laisseras?
Il retourne sa main, regarde ce morceau de roche qui nous a permis tant de choses. Boire, manger, couper de la viande et bientôt... mourir.
Compte sur moi.
Il la serre dans son poing jusqu'à saigner.
Toi comme moi, on a fait des choses pas bien. Mais on peut pas empêcher un homme de mourir comme il le souhaite. Dignement, sans se pisser dessus.
Merci. Il fixe le sol sans plus bouger.
Si Farid est mort, c'est parce qu'il nous a fait du mal. Il nous a fait du mal à tous les deux, Jonathan.
Il m'empoigne et me met sur mes jambes.
Allez. Au travail. Il faut agir au plus vite à présent et essayer d'atteindre la tache sombre. Place-toi devant le glacier et j'éteindrai la flamme. On allumera toutes les demi-heures environ pour constater notre progression.
Il pose le réchaud proche de la paroi translucide. Je m'avance à ses côtés, une main sur le nez. Ma narine droite est bouchée, le choc a déplacé ma cloison nasale. J'essuie les flux de sang avec la manche de mon blouson, serrant les dents. Je place une main de chaque côté de mon nez. Je devine que le cartilage est parti sur la droite, ça a toujours été ainsi, à chaque choc sur mon nez. Je sais à quel genre de douleur m'attendre. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de le remettre en place? À quoi bon? Retenant mon souffle, je bascule néanmoins l'étau formé par mes doigts vers la gauche. Le craquement me couche au sol dans un hurlement. Le sang gicle une dernière fois. J'inspire. L'air semble circuler normalement. Michel éteint. Alors qu'il abat brutalement la pierre tranchante sur la paroi, je soulève ma chaîne et me mets à frapper la glace à l'aveuglette. Mon nez, chacun de mes mouvements me plie de douleur, et pire elle est, plus je continue. Des cristaux s'écrasent au fond de ma gorge, ça fait mal, je mâche encore, le froid me dévore partout. Je ne vois plus Michel, ni Farid, ni même Françoise ou Claire. Juste moi. Moi et ce miroir de souffrance. Le même geste. Toujours jusqu'à ce que la lumière revienne, s'éteigne, revienne. Les heures passent. Michel m'interrompt, me ceinturant par derrière et me poussant à l'écart. Arrête deux minutes. Je crois qu'on va pouvoir distinguer quelque chose. Il suffit juste de polir un peu. Fais comme moi. Il ôte ses gants et les utilise comme des chiffons, exécutant de petits mouvements circulaires sur la glace. Je reprends mon souffle avec la bouche, les coudes sur les genoux. Nous avons creusé profond, peut-être 40 centimètres, sur 1 mètre de haut et 1 mètre de large. À présent, je comprends mieux comment notre tortionnaire a pratiqué. Il a découpé des dizaines de pains de glace avec sa tronçonneuse, a placé son objet avant de les rempiler. L'humidité sursaturée a alors soudé les blocs entre eux, donnant l'impression de brisure naturelle. La surface dans laquelle nous avons cogné est chaotique, tout à fait opaque, mais progressivement avec notre polissage, elle redevient claire, pure. Michel rapproche le réchaud au plus près. Au fur et à mesure du travail, ce qui nous paraissait noir s'éclaircit, des formes se précisent. La grosse tache d'origine laisse place à des courbes, des creux qui, instantanément, accélèrent les battements de mon cœur. Je découvre l'horreur absolue. J'arrache le réchaud des mains de Michel et le plaque contre la paroi bleuâtre. Tu vois ce que je vois?
On dirait un corps. Un corps recroquevillé, pourtant Farid a dit. J'ai la nausée.
Michel secoue la petite bouteille de propane.
Le gaz, ça commence vraiment à craindre. Faut aller au bout du travail et après, Joe.
Je fais 2 pas vers l'arrière, arme la chaîne et cogne de toute ma rage. L'éclair du métal frôle la tête de Michel et fendit la paroi. L'homme au masque s'écarte en criant tandis que je me remets à l'ouvrage. Des flots d'émotions négatives me traversent, donnent du carburant à mes muscles fatigués, me contraignent à poursuivre au-delà de mes forces. Je sens que depuis notre emprisonnement sous terre, j'ai grimpé des escaliers qui doivent me mener vers le summum de l'horreur, que chaque marche me rapproche d'un sommet et d'une tour noire, plongée dans des tempêtes perpétuelles où les âmes hurlent, tourbillonnent et ne trouvent jamais le repos. Que cette construction maudite, elle est bien plus dangereuse que l'Everest, et que ce qui m'attend en haut est un endroit où l'on ne pourra jamais mourir en paix. Les centimètres s'émoussent. 5, 10. Michel part, revient avec de la viande. Quand le réchaud tourne, on fait cuire la nourriture et fabrique de l'eau. On mange avec nos doigts devant le glacier. Je termine mon assiette en plusieurs fois. Cogne entre deux. Je ne m'arrête que lorsque des torrents d'acide lactique m'y contraignent et je reprends de plus belle 5 minutes plus tard. On ne se parle pas. On grogne juste dans l'effort, comprimé dans nos vêtements trempés de sueur. Je vomis souvent. Plus rien ne passe dans mon organisme. C'est comme la fin de tout. On se rapproche du but. Il doit rester 30 centimètres. À nouveau, j'éprouve le besoin de voir. Je ne peux plus attendre. On allume. On polit encore avec nos gants. La glace brisée chute. Laisse place à une couche miroitante. À force de frotter, je distingue un pied nu. L'image est nette. La diffraction ne déforme plus. Je pousse Michel. Avec le gant serré comme une éponge, je frotte. Encore, me dirige vers la droite. Des jambes dont les mollets sont groupés contre des cuisses blanches, fines, trop fines pour être des cuisses d'homme. Mon estomac se noue. Je ne vais pas tenir, je n'en peux plus. Et pourtant je continue ma progression vers la droite, tandis que Michel s'est mis en retrait parce que je crois qu'il sait. Il sait comme moi je sais. Je refuse de l'admettre, je m'entête. Les larmes me brûlent les yeux. J'aperçois une chevelure blonde sur des épaules nues. Je frotte vers le haut, vers l'origine des cheveux, vers ce visage de marbre qui m'attend, moi et personne d'autre. Soudain, 2 éclats d'améthyste brillent dans la lumière. Les lèvres m'apparaissent blanches, la tête est tournée dans ma direction. Mes jambes me lâchent. Mes ongles s'agrippent à la glace et crissent contre elle. Dans la blancheur de son corps parfait, ma fille Claire me regarde, les yeux grands ouverts. Et elle me sourit.